Voilà, donc je vous demande de l'indulgence, parce que j'ai eu que quelques heures pour préparer ça. Mais c'est un thème que j'avais déjà à cœur, et donc du coup, je l'ai préparé pour ce matin. Seigneur, nous te promettons ce temps où ta parole sera proclamée, annoncée, qu'elle puisse toucher nos cœurs et que nous puissions, Seigneur, entrer dans la destinée que tu as pour nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors j'étais encouragé en écoutant Alexis, parce qu'en fait, il a préparé cette prédication de manière incroyable. C'est quand même un angle assez particulier. Eh bien, c'est là-dessus que je vais prêcher. Vous allez comprendre tout à l'heure. Le thème, c'est la destinée. La destinée, c'est quoi une destinée? Est-ce que nous avons tous une destinée? Est-ce que l'Église a une destinée? Est-ce que les nations ont une destinée? Est-ce que l'homme, l'être humain, est-ce que l'humanité a une destinée? Voilà. C'est un grand thème hein, qu'on pourrait développer en philosophie, mais là, la Bible le développe et j'aimerais vous montrer comment la Bible voit notre destinée, comment nous pouvons entrer dans notre destinée. Tous, chacun de vous. Vous avez une destinée. Et c'est souvent la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que je sois utile, utile sur cette terre et bien sûr au-delà, parce que notre destinée ne s'arrête pas à la terre. Il y a bien sûr dans notre foi la vision de ce qui va se passer après et Dieu nous prépare pour ce qui va se passer après. Mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Nous avons une destinée individuelle, collective, et c'est ce matin, je vais apporter le comment. Qu'on en a une, c'est OK, il faut la chercher, mais comment est-ce qu'on entre dans la destinée ou on n'entre pas dans la destinée? Ça dépend de nous. Alors, pour ceux qui voudraient que je rentre plus dans le détail, et que ce ne sera pas le cas ce matin, je vais le faire dans une université d'été. S'il y en a qui ont demandé cela, je prends plus de temps, je prends 2 jours en fin août pour rentrer dans des détails que je n'ai pas pu exposer durant l'année, qui n'est pas le moment de la prédication, si vous voulez, de rentrer dans certains détails. Mais là, je pense que ce sera nécessaire. Dieu connaît nos destinées à l'avance. Vous dites Amen? C'est une question de foi, hein? On n'a pas besoin de le croire. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dans le temps. Le temps, c'est quelque chose qui est une création. D'ailleurs, Einstein a démontré que le temps n'existe pas. Il n'existe pas. Mais pour nous, il existe. Parce qu'on sait qu'on est et on meurt, et on le ramène à ce que nous vivons, à notre existence. Mais en fait, nous allons vivre éternellement. Donc, vous voyez, l'éternité, il n'y a pas de temps, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais Dieu connaît notre destinée à l'avance, même avant que nous ne soyons nés. C'est quelque chose qu'il a dit à Jérémie, à d'autres, dans la parole de Dieu. Mais nous pouvons passer à côté de la destinée que Dieu a pour nous. Je prends juste l'exemple du peuple incrédule dans le désert avec Moïse, qui a dû tourner 40 ans avant d'entrer dans le pays de Canaan, qui était destiné au peuple, et nous ne sommes pas rentrés à part ceux qui avaient la foi, comme Josué et Caleb, par exemple. Prenons la destinée d'Abraham. Commençons par le père de la foi. Dans Genèse 15, chapitre 15, verset 1er, je lis: Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit: Abraham, ne crains pas. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Et Abraham dit: Voici que tu n'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il dit, tu seras, la telle sera ta postérité. Et Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Vous voyez, la justice, ce n'est pas du tout comme la justice humaine. La justice de Dieu, c'est basé sur la foi. Sauf qu'Abraham, il a reçu cette promesse. Il a reçu cette promesse de la destinée dans laquelle il va entrer. Mais avant cela, il a été éprouvé. Abraham a été éprouvé avant d'entrer dans sa destinée. Il a été éprouvé avec Isaac, ne serait-ce que pour sa conception. Hein, et d'ailleurs, il a fait des bêtises parce qu'il était poussé par sa femme à faire un fils avec sa servante. Et voilà le résultat catastrophique qui existe encore aujourd'hui à cause de ça. Sans parler voilà, de toute cette attente où c'était impossible. Et il se posait beaucoup de questions. Mais la plus grande épreuve, c'est qu'il a dû redonner son fils à Dieu, et qui a été sauvé par miracle au dernier moment, lorsque un ange a arrêté son bras pour tuer son fils. Ouais, donc, je crois, plus grande épreuve, c'est peut-être difficile à imaginer, hein, on n'arrivera jamais à l'épreuve d'Abraham. Pourtant, c'est le père de la foi. Il y a un enseignement déjà que je vais poser là, à partir de ça, c'est qu'il y a toujours des choses en travers de notre destinée. Et il faut faire quelque chose pour y entrer. Ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte dès maintenant. Le deuxième exemple que je citerai, c'est Moïse, le libérateur du peuple, qui est celui qui a donné la constitution du peuple d'Israël, qui a été créé au moment du mont Horeb, quand ils sont montés recevoir les tables de la loi. Dans Nombre, chapitre 14, verset 12, Dieu dit, donc le peuple incrédule, je le frapperai par la peste. C'est incroyable que Dieu va frapper par la peste son propre peuple. Et je le détruirai. Je détruirai ce peuple. Vous voyez, la colère de Dieu, c'est incroyable, quoi. Mais, dit-il, je ferai de toi, Moïse, de toi, il s'adresse à Moïse, de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse a eu des épreuves. Moïse a eu des épreuves. Ne serait-ce que l'épreuve de retourner en Égypte pour libérer et rencontrer Pharaon, parce que c'était lui qui était à côté de Pharaon, le premier ministre de toute l'Égypte, qui a dû retourner pour le confronter Pharaon, avec les 10 plaies que vous connaissez. Donc il a dû subir lui-même des épreuves, et le peuple aussi. Et surtout, dans le désert, il a subi l'épreuve de la lassitude par le peuple, que Dieu a rejeté, finalement. Il a tourné 40 ans dans le désert. Prenons un autre exemple, c'est Élie. Élie, avec Jézabel, qui, la reine de l'époque, l'a défié. Et il est tellement déprimé qu'il est allé dans le désert, et Dieu lui a dit de donner la suite à Élisée. Il a terminé son ministère à ce moment-là. Grand découragement, grosse épreuve. La destinée, souvent, nous est communiquée, je ne sais pas si c'est votre cas, par prophétie. Est-ce qu'il y en a qui ont reçu des prophéties dans leur vie? Oui, j'en vois une, c'est tout. Deux, trois, quatre. Voilà, quatre sur la totalité. Voilà, Dieu parle par prophétie. Vous croyez encore que Dieu peut parler aujourd'hui? Allô? Il y en a qui dorment ici ou... Est-ce que vous croyez que Dieu parle encore aujourd'hui? Oui. Merci pour le oui. Vous savez, Dieu entend nos accords. Oui. Nous sommes quand même dans une église charismatique. C'est-à-dire, nous croyons encore aujourd'hui que Dieu parle. Il parle de différentes manières. Et moi, en tout cas, je crois que Dieu parle par prophétie. Il y en a qui croient aussi? Ah, vous me rassurez. Sauf que la prophétie, quand on la reçoit, elle ne s'accomplit pas toujours immédiatement. Vous l'avez déjà remarqué? Quels sont ceux qui ont remarqué ça? Ah, c'est bien. Pas toujours. Ce n'est pas forcément le cas. Je vais vous donner trois exemples de prophéties de cette église. De cette église. Parce que moi, personnellement, j'en ai eu beaucoup, mais je n'ai pas parlé de moi, j'ai parlé de l'église. Pour l'achat du local, ici, à Elisabethville, ce n'est pas un choix qui a été fait par les hommes. Le choix a été au Mureau, pendant un an on a travaillé, et Dieu a mis une barrière, et ce local-là, c'est Dieu qui l'a choisi au travers d'un inconverti, l'architecte, qui a eu à cœur de nous passer la main sur ce local où il y a eu une grosse épreuve pour l'avoir, parce qu'il appartenait à la CGT. Et à l'époque, vous savez, quand Renault est venu ici, il y avait 23 000 ouvriers. En 55, 23 000 ouvriers, était le siège de la CGT. C'était rouge, rouge, rouge ici. Hein. Voilà. Ici, le local en bas, quand on l'a vu, il y avait tout peint en rouge avec le marteau, la faucille. Enfin, voilà, c'était le local de la CGT, Renault, et le siège du communisme de l'Ouest de Paris. Et moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer le grand chef de la CGT, là, dans les Bourges en face, pour l'achat final. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. En 1989, au moment où Dieu nous a montré que c'était ce local qu'il avait choisi, j'étais à Harrogate. Harrogate, c'est en Angleterre, à peu près au centre, voilà, où il y avait un tas de prophètes, John Wimber, qui était là, avec beaucoup de prophètes. Et un prophète m'a pris à part, et il m'a prophétisé, en gros, ceci. Il a dit, « Dieu va t'arrêter dans ta façon méthodique de travailler, je ne sais pas comment il a vu que je pouvais être méthodique, dans ta façon méthodique de travailler, il va te surprendre. Okay. J'ai encore l'enregistrement, hein, parce que je l'ai enregistré. C'était, à ce moment-là, on était dans le moment où on devait acheter ce local, on n'avait pas d'argent. Bon, c'était une petite église de maison, et on venait ici. On n'avait pas d'argent. Et en rentrant d'Angleterre, à peu près un mois après ça, je reçois un coup de fil un soir, parce que je travaillais, j'ai travaillé toute ma vie comme ingénieur à l'aéronautique pour faire des fusées au Mureau. Et en rentrant un soir du travail, je reçois un coup de fil d'une chrétienne qui me dit « Il faut venir tout de suite ce soir chez moi. » Je dis « Ça y est, je vais encore prendre une engueulade. Bon. » Le pasteur, c'est souvent, il reçoit des remontrances. J'arrive, il dit, écoutez, voilà, on a eu un héritage de deux vases, des galets, c'est des fabricants de Nancy, très très connus. Il a dit, il y en a un qu'on garde, et l'autre, on le donne à l'église, l'église du Seigneur. Je dis, ok, c'est bien. On l'a mis à Drouot, à Paris, pour vendre aux enchères. Vous savez, il faut monter des enchères. Et on ne sait pas le montant, on ne sait rien. Voilà. Mais bon, on le donne à l'église. Et on a attendu 6 mois, parce que vous savez, à Drouot, voilà, il y a tous les protocoles et tout ça. Et puis, il est parti à 1 million de francs. Il est parti à 1 million de francs. C'est-à-dire aujourd'hui 250 000 euros. 250 000 euros pour un vase. Donc on a eu ce vase-là, et ça a couvert la moitié de l'achat. C'est-à-dire, à l'époque, c'était 120 000 euros, voilà, qu'on a négocié avec les communistes qui en voulaient le double. J'ai dit non, le Seigneur nous a montré ce chiffre-là, c'est tout. Et ils se sont alignés. Ça, c'est une autre histoire. Mais on a eu ça promptement, comme ça, voilà. Moi, je ne m'attendais pas. Et le lendemain matin, j'avais fait tout un dossier comme ça pour la banque, pour demander un prêt. Et en fait, je l'ai mis à la poubelle. Mais tout était prêt, vous voyez, méthodiquement, j'avais tout préparé, tout ça. Et paf, juste la veille d'aller voir la banque, ce coup de fil. Donc, vous voyez, la prophétie, là, elle est assez rapide. Deuxième prophétie, c'est en 1998, on a eu des combats ici énormes avec ce local, mais l'ennemi a toujours voulu fermer ce local, parce qu'on est sur un endroit qui le gêne énormément, pour des raisons que je pourrais vous dire dans cette université d'été dont je parlais. Anne Griffith, certains la connaissent, c'est une prophétesse voilà, qui a un très grand don de prophétie, mais très, très humble aussi, qui connaît beaucoup la France. Elle a vu... je l'ai invitée, j'ai dit, écoute, je l'ai rencontrée à Paris, j'ai dit, écoute, ce serait bien que tu viennes, on a besoin d'aide. Et elle a dit, je vais me placer devant le Seigneur. Elle ne connaissait absolument pas cette région-là, rien du tout. Voilà, voilà. Et elle est au nord de l'Angleterre. Et elle s'est mise en prière pour venir. Et elle m'a dit, écoute, voilà, j'ai une vision, j'ai reçu une vision du Seigneur. Je viendrai, quand je viendrai, je vous l'apporterai. Elle arrive ici. Elle dit, voilà ce que j'ai vu. J'ai vu en vision des chrétiens en 1685, c'était précis, il y avait le chiffre de 1685 dans sa vision. Il a dit, en 1685, j'ai reçu, je les ai vus, et ils étaient sur le départ. Ils partaient d'Aubergenville, et ils se disaient ensemble, eh bien, on va quitter, parce qu'Aubergenville, c'était un lieu refuge pour les chrétiens à l'époque, à l'époque de la réformation, de la réforme de Calvin, Luther Calvin. Et ici, il y avait un évêque qui était sur Aubergenville, qui était bienveillant parce qu'il s'était converti à la réforme, et il protégeait les chrétiens, les églises ici, et on a un vestige qui s'appelle Vaux-les-Huguenots, qui est un quartier d'Aubergenville exactement à l'extrémité sud. Nous, on a l'extrémité nord, Élisabethville, Vaux-les-Huguenots, c'est là-bas, et vous pouvez aller là-bas. Il y a encore une ancienne chapelle huguenote. Et donc, elle voit ces gens dans une auberge, ça s'appelle Aubergenville, hein, dans une auberge, qui disent, bon, on va partir, parce qu'ils étaient chassés, mais elle ne savait pas, c'était la révocation de l'édit de Nantes. C'est-à-dire, Louis XIV a signé révocation de l'édit de Nantes, les protestants sont chassés du pays. Et donc, ils sont partis, ils ont dit, eh bien, on va laisser l'héritage à ceux qui vont reprendre derrière nous. Et c'est 300 ans après. Vous voyez cette prophétie, voilà, c'est nous qui héritons cela. Alors c'est un héritage, mais c'est aussi une responsabilité. Parce qu'on doit reprendre l'héritage de ces chrétiens qui sont battus pour la foi chrétienne, et avec une ville refuge, avec un temple qui était possible parce qu'il y avait quelqu'un d'influent qui le gardait. Donc, voyez-vous, nous avons le flambeau de reprendre la suite. Et moi, j'étais témoin de ça, et beaucoup, Marie-France aussi était là à l'époque, etc. Et donc, on a une responsabilité, de garder le flambeau de ces chrétiens. Parce qu'il y a une persécution derrière, et nous, on a eu des persécutions administratives incroyables pour fermer ce lieu. Hein. L'ennemi s'est acharné pour le fermer, mais il n'y arrive pas. Parce que si Dieu l'a décidé, il ne peut rien faire. Sauf qu'il faut que nous, on tienne. 300 ans après, pour voir le flambeau de cette promesse que ce lieu, cette commune, serait une commune de refuge pour les chrétiens. Je reviens en 91. 91, c'est un an après l'achat du local à 90. En 91, quand nous sommes entrés dans ce local, alors c'était en bas, hein, ça n'existait pas, ça a été créé, tout à fait en bas, au sous-sol, eh bien, on a eu un prophète, confirmé par d'autres prophètes, qui ont vu cette église comme un phare. Ils ont dit que cette église sera un phare. Enfin, vous savez, c'est ce qui, dans la nuit, éclaire les bateaux pour pas qu'ils tombent sur les récifs et qu'ils puissent trouver le port et pas les récifs pour rester en rade, surtout quand il y a des tempêtes, etc. Donc un phare, c'est quelque chose qui amène effectivement une restauration, un refuge pour ceux qui sont un peu perdus, qui ont peut-être plus la boussole, etc. Et ça leur évite bien le naufrage. Donc ça va aussi avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec ces gens qui, il y a 300 ans, ont dit, on prie pour qu'il y ait des chrétiens qui reprennent la relève de ce refuge que Dieu a décidé ici. Pourquoi ici? Bon, une autre question. Et je sais maintenant, que Dieu va réaliser cette prophétie maintenant. Maintenant, 30 ans après, Donc, vous voyez, on était sur 3 semaines, 30 jours, sur 300 ans et sur 30 ans. 30 ans après, eh bien, la prophétie va se réaliser, je peux vous l'assurer, avec cette église qui va devenir missionnelle, c'est-à-dire missionnaire locale. Pas missionnaire au Congo, au Kinshasa, etc. On a des missionnaires qui sont très loin. Mais ici et maintenant, dans cette culture, dans ce moment-là, pour une ville-refuge, pour des gens qui cherchent Dieu, de manière à ce qu'ils le rencontrent. Donc c'est une église qui doit évangéliser. C'est ça qui nous est demandé, qui nous est destiné. Voyez, c'est une église qui doit évangéliser, même si c'est dur, même si c'est difficile. C'est vrai qu'on est dans un pays extrêmement rationnel, qui s'oppose à Dieu, l'athéisme de tous les philosophes qu'on a donné une naissance, etc., vient de Paris, vient de la France. Hein. Mais Dieu est au-dessus de ça. Il y en a qui croient ça? Vous croyez que Dieu est au-dessus de la philosophie, au-dessus de l'athéisme, au-dessus du communisme qu'on a connu, etc. Mais oui, il faut y croire. Sans la foi, nous ne pourrons pas entrer dans cette destinée. La prophétie du phare va s'accomplir, mes amis. Elle va s'accomplir parce qu'elle nous dépasse, parce que c'est Dieu qui l'a décidé. Maintenant, il faut que nous, on donne les conditions favorables pour y entrer, et pas comme les gens qui ne croyaient pas, les espions qui étaient « Ah non, il y a des géants, on n'y arrivera pas, etc. » Okay. Le problème, c'est qu'avant toute chose, quand on rentre dans une destinée, il y a des épreuves. Et là, on a eu une épreuve de 4 ans. 4 ans. C'est long. Hein. Là, on vient de passer une épreuve de 4 ans. Et c'est surtout lié au fait qu'il y a des esprits sur ce pays, sur cette région, comme dans tout pays, etc. Bon, sauf qu'ils sont spécifiques. Et ces esprits ne veulent pas qu'on rentre dans nos destinées. Alors, est-ce que nous, comme Abraham, comme Moïse, comme Élie, nous avons la foi pour dire « Seigneur, c'est toi qui l'as dit, c'est toi qui veux le faire ». Vous voyez, c'est notre foi qui est éprouvée. Alors, je fais une petite digression, parce que je vais lire un texte avec vous d'une certaine manière. Pour lire la Bible, il y a différentes façons de la lire. Il y en a 4 qui sont connues depuis 2000 ans par tous les théologiens. Il y a un sens littéral, c'est-à-dire je lis le texte biblique et je le prends littéralement, ce qui est écrit dessus, ce qui est écrit par le texte. Il y a un sens analogique. Deuxième analogie, c'est-à-dire que l'analogie, c'est surtout les paraboles. Voyez-vous ? Voilà, on compare Israël à une vigne, à un figuier, voilà. Allez, c'est analogique. Donc, il y a l'aspect analogique. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas tout le temps voir des analogies. Les paraboles, c'est bien, mais tout n'est pas vrai dans la parabole, tous les détails, vous voyez. C'est, voilà. Donc, l'analogie, il faut être renseigné sur la forme analogique pour ne pas aller trop loin dans ce sens-là, comme d'ailleurs le littéral non plus. Il ne faut pas tout littéraliser. La troisième manière de lire, c'est l'aspect moral, l'aspect éthique. Vous savez que Dieu est un être moral ? Ça s'appelle la philosophie, le moral, etc. C'est une manière philosophique de lire la Bible. Pourquoi je dis ça ? Ben, regardez dans Genèse. Qu'est-ce qu'il a mis comme arbre dans Éden ? L'arbre de la vie et du bien et du mal. C'est quoi ? C'est la morale, ça. C'est-à-dire que tu dois faire du bien, mais pas le mal. Vous voyez, c'est ça, la morale. C'est l'éthique. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal ? Donc, l'aspect moral est absolument capital aussi d'analyser un texte sous l'aspect moral, parce que Dieu est un Dieu moral, et c'est pour ça la justice humaine aussi essaye de faire cette justice humaine, mais il n'y arrive pas vraiment. Et la quatrième façon d'aborder la Bible, c'est ce que je vais faire ce matin, c'est l'aspect mystique. Alors mystique, c'est quoi ? C'est l'approche mystique d'un texte. Mystique, ça a tendance à parler de mystère. Vous êtes d'accord? Il y a beaucoup de mystères dans la Bible. Le mystère de la vie, le mystère de la croix, le mystère de Jésus qui est homme et qui est Dieu, le mystère de l'Église, le mystère. Énormément de mystères. Ce n'est pas mystérieux, vous voyez, mais c'est caché et ça doit être révélé. Et le mystère biblique, quand on parle d'approche mystique, c'est que c'est l'union entre l'homme et Dieu. Et c'est ce qu'a évoqué Alexis, c'est pour ça que je rebondis sur ce qu'a dit Alexis, qui a dit, il y en a un qui l'a vu, Jean-Baptiste l'a vu, Jésus, et les témoins des pèlerins d'Emmaüs ne l'ont pas vu. Voyez-vous, Jésus est là, et il a terminé en disant, Jésus est au milieu de vous, est-ce que vous voyez Jésus? Ben non, vous ne voyez pas. Il est invisible. Mais il est là. Il est là par quoi? Par son esprit. C'est encore un mystère. Et donc, c'est l'aspect du mystère, l'aspect mystique de l'approche, et je vais vous amener dans ce domaine-là. Quand Michel il a reçu un don, vous l'avez vu, d'expliquer la Bible, en fait, elle utilise l'approche structurale de la Bible qui touche l'aspect littéral, analogique et moral. Pas l'aspect mystique, sauf qu'elle m'en parle avant qu'elle prépare et on échange sur les textes et je lui donne certains éléments. Le Seigneur m'a donné ça, d'approcher particulièrement, d'autres font très bien le reste, l'approche mystique. Autrement dit, je vais le dire autrement, le naturel, ce que vous voyez là, s'explique toujours par le surnaturel. Et ça, c'est le premier élément de la foi. Rappelez-vous Hébreux 11. La foi, c'est de ce qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on ne voit pas qui est le fondement de ce qu'on voit. Vous voyez, par exemple, ce bureau-là, enfin, cet élément-là, vous le voyez. Eh bien, il est fait d'invisible que vous ne voyez pas. C'est les atomes, ce qu'on appelle la physique quantique. Bon. Si on ne rentre pas dans la physique quantique, on dit, ben non, je ne vois pas les atomes. Ben oui, vous ne les voyez pas. Mais c'est grâce à ça que ça existe. Voyez-vous ? Donc même dans le physique, c'est vrai. Dans le physique, alors dans le spirituel, encore mieux. Dieu qu'on ne voit pas, c'est lui qui est à l'origine de tout. Jésus, qui est fils de Dieu, qui est aussi fils de l'homme, qu'on ne voit pas. Vous voyez, donc on est dans cette dimension de l'union entre l'homme et Dieu, dans le physique et le divin. Je vais prendre Genèse chapitre 15, versets 16 à 49. Abraham reçut une promesse de Dieu. Verset 16. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens, des Amorites, n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kénéens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Éthiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Guirgasiens, des Jébusiens. » Il y en a 10. Donc 10 nations qui forment le pays, qui forment les éléments qui sont confiés à Abraham, à sa postérité. Je signale une chose, c'est que quelque chose de mystérieux, donc de mystique, si vous voulez, qui est à élucider, j'en parlais tout à l'heure, c'est au verset 16, il dit, « Ils reviendront ici, car l'iniquité n'est pas encore à son comble. » Ça veut dire que Dieu attend que l'iniquité augmente, c'est très étonnant, expliquez-moi cela, l'iniquité augmente pour que donner ça au peuple. Ça pourrait être quand même l'inverse, hein. Ce serait plus facile pour un peuple de prendre quelque chose où l'iniquité met à son comble. Voilà. Et pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Voilà, il faut l'expliquer. Et ça, c'est l'explication, l'approche mystique. Pourquoi Dieu donne-t-il des tests, des épreuves, si vous voulez, avant de nous faire entrer dans notre destinée? Sachez que si vous avez une destinée, plusieurs ont levé la main, vous la connaissez, eh bien sachez que vous ne rentrerez pas avant qu'il y ait des épreuves. Alors tout le monde n'a pas les mêmes épreuves, le niveau d'épreuve. Petite épreuve, petite destinée, grande épreuve, grande destinée, ça c'est un principe. Alors, pourquoi Dieu pousse-t-il à ce que les ennemis deviennent de plus en plus ennemis avant de faire entrer quelqu'un? C'était vrai aussi en Égypte. Hein. Rappelez-vous, Pharaon, quand ils ont dit on veut partir, hop, il a chargé les épreuves, etc. C'est un principe biblique que vous verrez partout. Pourquoi? Eh bien parce que avant de nous faire entrer dans notre destinée, il veut s'assurer que toute la gloire lui revienne. Parce que Dieu est un Dieu jaloux, jaloux de sa gloire, parce qu'il ne veut pas que la gloire revienne à l'ennemi, à Satan, qui veut usurper, parce qu'il sait que Satan va nous détruire. Donc il veut qu'on soit bien conscient que l'épreuve qu'il va nous donner pour entrer dans la destinée, on puisse suffisamment être éprouvé pour dire « Seigneur, ce n'est pas moi qui réussis à sortir de là, c'est toi. » Et après, ça rentre là-dedans pour la suite, pour faire les... Parce que s'il n'y a pas cette épreuve-là, eh bien, les hommes, nous, tous, moi y compris, on corrompt la gloire de Dieu. On l'utilise. Si aujourd'hui, du jour au lendemain, il nous donnait une capacité de guérir tout le monde, ce qu'il est capable de faire, eh bien, ça nous montrait la tête et on corromprait ce don, voyez-vous. Donc c'est un principe de base. Et parfois, eh bien, les hommes font quand même à leur tête. Dieu a permis des géants en Canaan. Est-ce qu'il y en a ici qui croient aux géants qu'il y a eu en Canaan? Levez la main. Juste pour voir le degré de votre adhésion. Voilà. Pardon? On a trouvé un squelette des géants, oui. Alors, je n'ai pas les chiffres ici, je n'ai pas eu le temps de préparer ça correctement, la prédication aujourd'hui, mais on a trouvé des lits qui font je ne sais pas combien de mètres de large et combien de long, qu'il y avait des géants qui dormaient là. Oui. Et il se trouve qu'ils sont dans Canaan. Ils auraient pu être en Égypte, ils auraient pu être en Syrie, ils auraient pu être ailleurs, etc. Non, c'est ce pays-là que Dieu veut leur donner, mais il met des géants dedans. Voyez-vous? C'est quand même incroyable, incroyable. Dieu veut donner ce pays, mais il faut vaincre les géants. Encore un mystère, mais qui s'explique. Et en fait, il faut, si nous voulons entrer dans notre destinée, nous attendre à Dieu seul. Vous pouvez le dire après moi, Dieu seul. À Dieu seul. La gloire. D'ailleurs, c'est l'objet du credo de la réforme. Alors, pour sortir d'Égypte, ils étaient combien de temps en Égypte, le peuple, vous vous rappelez? 400 ans. De toute façon, c'est facile à retenir. Tout ce qui est épreuve, c'est 4. 4 avec un 0, 40, 400, 4000. Voilà. Dans l'explication de l'interprétation mystique dont je vous parle, il y a des choses comme ça qui sont récurrentes, un peu comme si celui qui l'avait écrit s'appelait la numérologie biblique. Voilà, Dieu avait donné ces éléments-là pour se repérer. Chiffre 4, 40, c'est l'épreuve. Ils ont attendu 400 ans, les Israélites, en Égypte, avant de pouvoir sortir et d'être libérés par Moïse. Et pendant ces 400 ans, à la fin, la persécution de Pharaon a grandi. Elle n'a pas baissé, elle a grandi. Et c'était impossible à vue humaine de sortir d'Égypte à ce moment-là. Mais Moïse a été choisi alors qu'il s'était enfui dans le désert pour être tranquille de l'Égypte. Il a dit, toi, tu vas retourner voir le Pharaon et tu vas libérer mon peuple. Waouh! Quelle épreuve! Pour qu'il rentre dans sa destinée, Moïse devait accepter de faire ce qu'il avait décidé de plus jamais faire. Et il a discuté avec Dieu. Hein. Même qu'il a dit, mais non, moi, je ne peux pas faire ça. Il a trouvé tout un tas d'excuses et à chaque fois, Dieu lui a dit, tu ne peux pas parler, mais je te donne un rond. Voilà. Okay. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a comme objection, vous voyez? Voilà. Dieu, quand il veut quelque chose, il le veut, à condition que la personne qui est éprouvée compte sur Dieu et ne s'en aille pas. de l'épreuve. Ça, ça dépend de chacun. Donc c'était impossible de sortir de l'Égypte. Et en plus, le peuple, comme tout être humain, même sous la persécution, il a installé des routines. Des routines. D'ailleurs, c'est sorti dans le désert. Quand ils en avaient marre de Moïse, ils ont dit « Ah, là-bas, on avait des oignons, on avait des trucs, on avait ça, vous voyez ?» Alors là, ils se souvenaient d'un seul coup. Ils ne se souvenaient plus de l'esclavage, ils se souvenaient de tous les bons petits plats qu'ils avaient, machin, etc. C'est humain. C'est humain. Mais le peuple n'est pas rentré dans le pays. Il a tourné pendant 40 ans, à nouveau, chiffre de l'épreuve. Vous savez, on se lie aux idoles. C'est le problème des idoles. Les idoles, c'est tout ce qui renvoie à du divin, mais qui n'est pas Dieu. Et donc, on fait du divin de tout, de tout. En France, c'est quoi l'idole principale de la France, pour ceux qui ont déjà eu affaire à des combats spirituels? C'est quoi l'épreuve? Ouais, tout à fait. Vous allez au Palais Bourbon, vous savez, c'est en fait de la Concorde, là. Vous regardez l'Assemblée nationale, et vous voyez sur le fronton, tout en haut, il y a quoi comme figure grecque? C'est Minerve, Athéna Minerve. Oui, c'est l'idole de la raison. Vous savez, des grands littéraires de la France, comme Michelet qui a écrit en 19e siècle... Tout ce qui passe sur la France, qui n'était pas forcément chrétien, peut-être catholique, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au 19e siècle, enfin 18e, c'est la Révolution, Athènes est venue à Paris. Waouh! Athènes est venue à Athènes, c'est Athéna. Athéna, Athènes, Athéna Minerve. C'est ça, c'est la raison. C'est le culte à la raison. Et la France est vouée, s'est vouée au culte à la raison. Alors la raison, c'est important hein, d'avoir une bonne raison. Mais si ça prend la place de Dieu, voyez-vous, l'idole, c'est toujours quelque chose de bien qui est poussé à l'excès, c'est tout. C'est pas forcément mauvais, la raison, c'est très bien, c'est important d'avoir une raison. Mais la pousser à l'excès, ça devient une idole, c'est tout. Et Dieu détruit les idoles sur leur tête, c'est ce qui est marqué dans Jérémie. Il va détruire les idoles sur leur tête. C'est-à-dire que quand on se confie une idole... Eh bien, Dieu va nous la casser sur la tête. Parce qu'en fait, l'idole, derrière l'idole, il y a des démons hein, qui agissent. Et il n'y a que Dieu qui a la raison suprême. Et c'est un message que vous avez donné sur la sagesse qui est important, sagesse de Dieu. Donc, pour entrer en Canaan, il y a eu 40 jours, on retrouve les 40, 40 jours où les espions... On sont allés en reconnaissance dans le pays. 40 jours. Et avant d'entrer dans une destinée que Dieu a prévue, il y a toujours une épreuve, et ça, c'est la vue des géants. Et ils ont vu des géants. Ils les ont vus. Et les Israélites, y compris parmi les 10 espions, eh bien, ils n'étaient pas prêts à faire confiance à Dieu pour s'attaquer à ces géants. Vous savez, nous, on se plaint toujours. L'être humain se plaint. Voilà. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter de se plaindre. Il faut voir la puissance de Dieu. Et la foi, c'est de voir la puissance de Dieu devant des obstacles insurmontables, infranchissables. Je sais qu'en ce moment, il y en a plusieurs qui sont éprouvés. Je pense à Olivier à son travail, à Samuel à mon travail. Voilà. Il y a des épreuves. Mais... qu'est-ce qui est le plus fort? Est-ce que c'est notre confiance dans l'homme, dans les capacités qu'on a, etc., ou en Dieu? Et c'est là que Dieu nous attend. Et c'est là que les héros, non pas au sens de forme, mais de la foi, se lèvent. Je vais vous lire un texte, et ça c'est très important de le lire en entier, avec la ponctuation que je veux mettre pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Dans Nombre, chapitre 13... on va commencer au verset 25 jusqu'à 14, verset 10. Je lis. Ils furent de retour de l'exploration, donc c'est les 12 espions qui sont revenus. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, et les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak, c'est-à-dire des géants. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hittiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. » Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons vu, que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Alors toute l'assemblée levant la voix et poussa des cris et le peuple pleura. Toute la nuit, il pleurait toute la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre quoi? Contre les leaders, Moïse et Aaron, comme s'ils étaient pour quelque chose. Hello, ça vous dit quelque chose? Et toute l'assemblée dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Ils préfèrent la mort. La mort. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? Vous voyez les paroles négatives? Où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Tiens, pourquoi pas? Dans l'esclavage. Et ils se dirent, l'un à l'autre, et ils vont jusqu'au bout de leur raisonnement, nommons un chef et retournons en Égypte. Tiens, la bonne blague. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage. Ils étaient concernés. Vous comprenez pourquoi Moïse? Il en avait marre du peuple. Tous les efforts qu'il a fait pour le sortir, pour les emmener dans le désert, pour le voilà, et voilà, voilà, devant le pays, tout s'effondre. Moïse et Aaron tombèrent sur le visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Jéphouné, déchirèrent leurs vêtements, signe de deuil, signe de jeûne, signe d'humiliation profonde. Et ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Et si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus l'ombrage ou la protection pour les couvrir. C'est quoi? C'est la protection spirituelle. L'Éternel est avec nous, ne le craignez pas. Et toute l'assemblée parlait de les lapider. Moïse, Josué, Caleb veulent les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Ceux qui veulent rentrer dans leur destinée, ils ont un prix à payer. Mais ils sont persécutés par le peuple qui ne veut pas Et c'est Dieu qui intervient au dernier moment pour arrêter le carnage. C'est toujours comme ça. C'est Dieu qui a le dernier mot. Je lui dis souvent, je crois que Michel me dit, et Dieu... Et, pardon ? But God. Mais Dieu. D'un seul coup, Dieu intervient. Il dit, maintenant ça suffit. Maintenant ça suffit, les gars. Ça suffit, votre rébellion. Oui. Josué et Caleb, ils ont invoqué la protection spirituelle. Et ils ont compris que le Seigneur avait lâché les dieux des Cananéens. Et ça, c'est une vision, comme l'a dit ce matin Alexis, une vision spirituelle. Quand vous n'avez pas cette vision spirituelle, vous paniquez. Quand vous avez la vision spirituelle de la foi, et que vous voyez, un peu comme le serviteur d'Élie, il paniquait, il dit, mais écoute, Seigneur, ouvre-lui les yeux, parce que tu vois, toute l'armée céleste, là, il ne voyait pas. Ouais, quand on ne voit pas, on ne voit pas. Mais c'est dramatique de réagir comme ça. Mais c'est une réalité spirituelle. C'est pour ça que la lecture mystique de la Bible, c'est de montrer comment certains voient, d'autres ne voient pas. Voilà. Et l'idée, c'est que quand même, tout le monde arrive à voir. Vous savez, moi, au début, quand je me suis converti, ça fait plus de 50 ans, en 67, j'étais très, très soucieux de servir le Seigneur dans l'Église catholique où j'étais. Et le Seigneur m'a saisi, m'a fait connaître sa personne de manière absolument incroyable, fantastique, un être de lumière et de puissance. Et puis, après, j'avais une belle-mère, donc la mère de Michel, laquelle j'étais jalouse, parce que c'est une femme de prière, elle priait tout le temps, elle voyait des choses, etc. Elle me disait, André, ça, etc., fais attention. Et je dis, mais attends, fais attention, moi, je vois rien, là. Tu me dis, un tel, il fait problème et tout, moi, je vois pas, etc. Et je dis, mais explique-moi. Ah non, je peux pas expliquer, je sens. Je dis, je ne peux pas s'en dire, je suis rationnel. Moi. Je suis ingénieur, j'ai fait toutes mes études, etc. Mais il faut que je comprenne. Voilà. Et elle ne pouvait jamais m'expliquer. Mais en réalité, tout ce qu'elle me disait, ça arrivait. Je dis, waouh, alors là, j'ai du chemin à faire. Et du coup, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, ouvre-moi les yeux, aide-moi à voir. Et j'étais avec John Wimber et tout ça, et c'est incroyable ce qu'on voyait, comment Dieu utilisait des dons comme il avait, etc. Il est là, d'ailleurs, sur le truc. Et le Seigneur m'a fait la grâce de voir aussi ces choses-là. Et de combattre Satan personnellement, à un moment donné. Et là, j'ai compris la puissance qu'il y a derrière tout ça. Et maintenant, quand je vois quelque chose, un peu comme le long du bois, je vois des choses, je dis, ah là, il faut faire attention. Et je regarde avec les jumelles, je dis, ok, il faut faire attention. Parce qu'on est entouré, d'êtres qui sont maléfiques. Ça s'appelle des êtres maléfiques, qui ne veulent pas du bien, et surtout pas le bien pour l'Église et les chrétiens. Donc il faut se battre, mais il faut voir, il faut être voyant de ces choses. Voyez-vous, le peuple était tellement furieux qu'il voulait lapider ceux qui ont dit « on va avoir la victoire ». Alors quels sont les enseignements de ce texte? Eh bien, nous ne sommes pas capables d'entrer dans notre destinée avec nos forces personnelles. Les circonstances ne seront jamais favorables pour y entrer. Les éléments auxquels nous devons faire face sont de vrais géants. Et il faut regarder aux choses invisibles et aux promesses de Dieu pour entrer dans le destiné. Mais ceux qui étaient incrédules, qui n'ont pas cru, eh bien, ils ont pleuré toute la nuit. Ils ont dénigré les leaders. Oh, c'est le problème du pasteur, c'est de sa faute, changeons de pasteur, maintenant ça ira mieux. Enfin, vous voyez, c'est actualisé. Il faut une attitude de foi. Dieu va nous donner le pays. Il va nous faire gagner. Dieu et les anges qu'il a placés, comme Élie, eh bien, ils vont être avec nous, parce que Dieu place aussi des êtres invisibles, mais pour nous aider, c'est la parole qui nous le dit. Et de grandes batailles vont donner de grands résultats. Et je peux vous dire qu'il y aura des grands résultats pour cette Église, parce qu'il y a eu une grande, grande bataille. Et ça, ça m'a réjoui. Ça me réjouit de voir Dieu va utiliser ceux qui sont là pour cela. Alors revenons juste au texte, et je terminerai là-dessus, de Genèse 15, 18. Dans Genèse 15, 18, Dieu, à l'époque, Abraham, donc avant Moïse, il dit « Je te donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des... » Alors, c'est les dix nations, Kénien, Kénésien, Cadmonien, Éthien, Phérésien, Éphaïm, Amoréen, Cananéen, Guirgazien, Jébusien. Que représentent ces pays? Bon, si on regarde juste comme ça, littéralement, on regarde la géographie, on regarde la population, l'endroit, etc. Mais si on fait l'interprétation mystique, comme je vous l'ai dit, du mystère qu'il y a derrière, eh bien, ces dix nations qui sont données à Abraham, elles sont aux mains de dix esprits territoriaux, dix esprits de puissance qu'il faut vaincre pour y entrer. Et il y a dix épreuves, dix tests à passer pour entrer dans cette destinée. Et c'est le cas de cette Église, pour devenir ce phare qui est notre destinée et de suivre eh bien, la destinée que nos frères, il y a 300 ans, avaient de cette ville-refuge, il faut passer par ces dix épreuves. Je vais vous les citer très rapidement, puisque là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Les Kenyans. Les Kenyans, la traduction de Kenyan, c'est les fabricateurs. Et c'est des fabricateurs de quoi ? Mais de rumeurs. Donc, vous voyez, les rumeurs qu'il y a, c'est les démons, c'est les esprits qui agissent pour amener des rumeurs, pour vous faire peur, pour vous dire vous n'y arrivez pas, etc., etc. On a connu ça. Bon, c'est spirituel. Les Kénisiens, alors je ne rentre pas tout dans les détails, les Kénisiens s'appellent des possesseurs. Les possesseurs, c'est des esprits qui veulent essayer d'être spirituels. Donc, ils essaient d'être spirituels, donc ils se présentent à vous d'être spirituels, et en fait, ils vont vous démolir, quoi. Vous voyez ? Oh, et puis, il y a des fois des gens qui veulent être spirituels, tout ça. Mais la spiritualité, c'est quoi ? C'est pas de parler des choses spirituelles, c'est d'être spirituel. C'est-à-dire, c'est d'être en communion avec Dieu. Mais il y en a qui paradent, etc., pour vous faire croire qu'ils sont spirituels, et en fait, ils vous amènent dans des pièges. Et ça aussi, il faut savoir les détecter, les contourner. Les Cadmoniens. Les Cadmoniens, ça veut dire conservateurs. Alors les conservateurs, ils vont pousser à vous dire « Ah non, on ne peut pas changer, oui, c'est difficile de changer, on va perdre ça, et puis voilà, l'Égypte était mieux, et puis là-bas on avait des oignons, on avait un tas de choses, etc. » Voilà. Eh bien, si vous avez la foi, vous pouvez dire, eh bien, le changement, voilà, j'y vais, même si ça sera difficile dans ce pays de Canaan, parce qu'il y a des géants, ben j'y vais. Et donc, il faut surmonter cela. Les Éthiens, quelle était la particularité des Éthiens ? C'était la terreur de la nuit, la peur de ne pas y arriver. Pour entrer dans une destinée que Dieu a prévue pour nous, il ne faut pas avoir peur. Alors la peur, c'est naturel d'avoir peur, ah, surtout quand la destinée est grande, qu'on a une prophétie, une certaine dimension, on a peur. Mais la peur, ça ne vient pas de Dieu. C'est la foi qui vient de Dieu. Voyez. Donc il faut surmonter aussi cette épreuve. Les Phérésiens, la traduction, c'est apathie. Apathie. Oh, on ne fait rien. On ne va pas aider le leader dans sa vision. On va le laisser. On va attendre. On est apathique. On est apathique. Voyez. Et c'est spirituel. Il y en a qui veulent avancer, qui veulent faire des choses, et les autres, ils sont sympathiques, ben, voilà, ça freine le mouvement, ça freine l'Église, ça freine l'œuvre de Dieu, etc. Donc ces esprits-là aussi sont là pour nous freiner. Riphaïm veut dire intimidant. Très souvent, on s'aperçoit d'une chose, c'est que Dieu prépare des miracles. Dieu prépare des miracles. Il y en a qui croient ici que Dieu fait des miracles. Eh bien, souvent, il y a des gens qui partent avant que le miracle se produise. C'est dommage. Vous voyez, parfois, il faut de la persévérance, comme je vous ai dit, des fois 30 jours, 30 ans, 300 ans. Voilà. Dieu fait des miracles. Mais parfois, il y en a qui quittent avant que le miracle arrive. C'est dommage. Oui. Et c'est l'intimidation. C'est l'esprit d'intimidation qui fait ça. Oui. Donc, c'est spirituel. Et il faut savoir faire face à ça en disant, Seigneur, je crois que la destinée que tu as pour moi elle va s'accomplir et je persévère jusqu'au miracle. Les Amoréens. Ah, Amoréens, ça veut dire beau parleur. Beau parleur. Alors, vous savez, il y en a qui parlent mal de vous pour vous faire douter de vous-même. Bah, n'écoutez pas. Il faut écouter le Seigneur. Il faut écouter le Seigneur qui parle de vous. Si vous n'avez pas de communion avec le Seigneur, c'est sûr que c'est difficile de l'entendre. Mais il faut le chercher. Il faut le chercher. Qu'est-ce qu'il dit de vous? Et s'il dit de vous certaines choses, mais croyez ce que Dieu dit et pas les hommes. Faites du discernement par rapport à ce qui vous est dit. Mais ne comptez pas, ne vous appuyez pas sur les hommes, appuyez-vous sur Dieu. Parce que l'ennemi veut vous faire douter de vous-même, de la vision que vous avez reçue, de la destinée qu'il vous réserve. Il y a aussi les Cananéens. Cananéens, ça veut dire zèle excessif. Alors, il y en a qui sont tellement zélés qu'ils vont trop vite, trop tôt, par rapport à la destinée. Ah, ils veulent prendre leur destinée en main. Et parfois, c'est trop tard. Vous voyez, il faut cette sagesse. Mais là aussi, c'est spirituel, c'est les esprits qui nous poussent à aller vers l'excès, trop vite ou trop lentement. Il faut attendre. Quand je vous disais qu'aujourd'hui on rentre dans la destinée, c'est 30 ans après. Il faut quand même attendre. Voilà. Moi, je m'attendais à ce que le Seigneur fasse quelque chose avant. Et j'étais très souvent en train de discuter avec le Seigneur, de dire, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Bon, par rapport à cette promesse. Guirgazien. Guirgazien, ça veut dire étranger. Et ces esprits vous font sentir que vous êtes à côté de la plaque. Voilà. Voilà, vous êtes étranger à la destinée que Dieu veut de vous. Ben non, n'écoutez pas cela. N'écoutez pas tous ces mensonges de l'ennemi qui veulent vous faire sentir à côté de la plaque. Vous n'êtes pas à côté de la plaque. Si vous avez entendu le Seigneur, eh bien, avancez dans cette vision qu'il vous a donnée. Et je termine par les Jébusiens. Jébusien, ça veut dire dépression. Vous avez une mentalité de victime, de dépression. C'est ce qui est arrivé à Élie. Ou alors, vous ne faites pas assez. Ah, il faut faire plus, il faut faire plus. Non, si c'est le Seigneur, la destinée va s'accomplir sans faire plus, c'est la grâce. Voilà, je termine là-dessus. Donc, c'est les 10 nations qu'il faut prendre, qu'il faut atteindre. Et ce sont 10 batailles, 10 épreuves pour entrer dans la destinée. Vous savez, Gédéon, il était confronté à la même chose. Il y avait 120 000 guerriers en face de lui, Gédéon. Et il avait 35 000 soldats. Dieu a dit, il y en a trop. Ils sont arrivés à 22 000. Dieu a dit, il y en a trop. Ils sont arrivés à 300. Et quand ils étaient 300, le soir, avant le combat, Gédéon a eu des doutes. Et il était seul. Donc de 35 000, on arrive à une personne. Et quand même, pour se rassurer, il a dit à son serviteur, écoute, viens, tu viens avec moi. Okay, bon. Et ils sont descendus voir le camp, tout seul, avec son serviteur à deux. Ça s'est terminé comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé un miracle de Dieu. Mais c'est toujours comme ça que ça se passe. Quand vous entrez dans votre destinée, Dieu vous parle, à vous, personnellement, ou à une église, au leader. Un soldat, il a entendu, c'est caché, il a entendu un soldat qui disait à un autre, j'ai eu une vision. Ah, c'est quoi ta vision? Eh bien, il y a un gâteau de grains d'orge qui roule et qui va tout renverser. Je lis. Voilà ce que dit la parole. J'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Et il l'a retourné sens dessus dessous et il a été renversé. Et son camarade lui dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Rappelez-vous que Gédéon était un boulanger. Il faisait des pains d'orge. Voyez-vous, donc les visions, il faut les interpréter. Alors là, on rentre dans l'interprétation des visions. Ça aussi, je vais le traiter un jour dans les universités d'été. C'est très important de bien interpréter les visions qu'on reçoit. Et là, c'était très clair. Et cet homme, ce soldat qui était inconverti, qui n'était pas un peuple d'Israël, qui était ennemi, il voulait le détruire, eh bien, il a compris. Il a compris que c'était Gédéon. Gédéon. Pas l'armée d'Israël, c'est Gédéon. Donc, vous voyez, Dieu utilise des hommes, juste une personne qui répond. Et le miracle, Dieu peut le faire. Ce qui est un comble, c'est que les soldats païens comprennent le combat spirituel. Ouais. Voyez-vous ? On reçoit souvent des leçons des païens. Ils comprennent le combat spirituel, mais pas les chrétiens. Il y a des chrétiens qui disent « Bah non, on parle du spirituel. » Bah oui, bah, c'est pas juste pour faire bien le spirituel. C'est une réalité. Il faut en tenir compte dans le quotidien. Eh bien, certains chrétiens critiquent même ceux qui parlent de spirituel, du vrai spirituel que je viens d'évoquer, là, le combat spirituel, comme une explication possible des épreuves et des combats, et même ceux qu'on a vécus. C'est incroyable. Depuis 4 ans, moi, je vois des combats spirituels, il y en a qui ne les voient pas. En conclusion, devenons ce phare que Dieu a promis, que Dieu a promis. Parce que c'est notre destinée. C'est la destinée de cette Église, de ceux qui relèvent le défi dans cette Église. Et pour entrer dans la destinée, il faut faire face aux épreuves qui fortifient notre foi, qui, à ce moment-là, est prêt à relever le défi et à donner toute la gloire à Dieu, parce qu'on sait que ça ne peut pas venir de nous, parce que les géants sont trop grands. Notre épreuve, pour moi, est terminée. Et dimanche dernier, j'ai conduit cette prière de bénédiction de Salomon. Après le jeûne et la prière, on est dans la réjouissance. Ils se sont réjouis 15 jours. 15 jours parce qu'ils ont cru. Ils ont cru. Ils ont cru que la repentance faisait un effet. Et moi aussi, je le crois, parce que je l'ai déjà vécu, et je peux vous dire qu'il y a des grandes victoires quand on se repent, et surtout en Église. Dieu a voulu nous préparer pour ces géants à battre, et il y en a ici. Et je ne vais pas les nommer devant vous, mais je peux vous les dire en privé. Tous les géants, je les connais, pas tous, mais j'en connais les principaux, qui veulent que l'Église n'existe pas ici, particulièrement dans cette région. Donc prions, prions pour notre destinée, mais aussi pour la vôtre. Je voudrais faire une prière pour que vous ne méprisiez pas les promesses, les prophéties que vous avez reçues. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous lever en signe d'approbation pour la prière que je vais faire pour vous aussi, pour que vous puissiez rester dans la foi, que ces promesses vont s'accomplir, que ce soit 3 jours, 30 jours, 30 ans, 300 ans, et à un moment donné, Dieu, mais Dieu, il accomplit ses promesses. Amen. Voilà, fermons les yeux, ceux qui veulent se lever, bien le font dans la simplicité, devant le Seigneur, c'est devant le Seigneur, moi je n'ai aucun pouvoir, ni même dans la prière, mais je vais demander pour vous, que vous aussi, vous puissiez rentrer dans la destinée qu'il a pour vous et que vous puissiez le discerner et que l'ennemi n'ait pas le dessus sur vous. Seigneur, je te prie pour ces bien-aimés qui sont devant toi et qui s'attendent à toi, Seigneur, qui veulent rentrer dans leur destinée, mais aussi dans la destinée corporelle que tu as pour l'Église, parce que l'Église d'un corps, nous sommes tous solidaires les uns des autres. Eh bien, Seigneur, que cette Église, avec ceux que tu as choisis et que tu continues de choisir pour que cette Église soit un phare pour cette région, eh bien, nous puissions tous, Seigneur, avoir la foi. La foi, non pas de regarder en arrière comme la femme de Lot qui est devenue une statue de sel, mais Seigneur, que nous puissions regarder en avant parce que toi, tu es devant. Tu es devant nous, tu es hors du temps, Tu connais la destinée de cette Église. Et Seigneur, quelle que soit même notre attitude, elle se fera. Mais Seigneur, nous te prions que nous soyons de ceux et celles qui pouvons être utilisés à ton service. Seigneur, je te prie au nom de Jésus que toute la gloire ne revienne qu'à toi, dans le nom de Jésus.